Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
tes limites.
Il y a un coup de
cul,
il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel, Yoann Crochet, les drôles dames, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h. Les gars, il y a un but en Ligue 2 entre Metz et Saint-Etienne, Patrick Müller.
Effectivement, l'ouverture du score, un but contre son camp d'un défenseur Saint-Stéphanois. C'est un corner messin frappé par Fally Kandé et Bakayoko qui pousse le ballon dans ses propres filets. C'est un petit événement, si l'on peut dire, dans le sens où le FC Metz n'avait pas marqué depuis, si mes calculs sont bons, 287 minutes. En tout cas, les Messins qui mènent 1-0 face à Saint-Etienne avec donc ce but contre son camp de Bakayoko, le défenseur stéphanois.
Et c'est parti entre le Rayo Vallecano et le Real. 0-0 à l'instant, une percée de Vinicius qui était stoppée coup franc à venir. Voilà les gars, précision également, sachez que c'est un moment important pour l'after. Nous sommes désormais, et ce sera le cas tous les soirs du lundi au vendredi sur Twitch. De 20h à minuit.
C'est pour ça qu'on
la
fait
chaîne
des petits signes, en fait.
Twitch RMC Sport, c'est très simple. Soit vous avez Twitch, l'application, vous tapez RMC Sport et vous nous rejoignez en direct. Vous pouvez voir Fred Armel, le crâne luisant et les muscles saillants de Fred Armel aussi. Le crâne luisant également et la barbe bien taillée de Yoann Crochet. Magnifique pull à capuche. Vous pouvez envoyer vos messages, et comme c'est interactif, Twitch, vous le savez, hein, il y a un chat, du stream, comme on dit.
Je suis passé voilà. Plusieurs fois.
Vous pouvez nous regarder sur le Twitch RMC Sport. On les salue d'ailleurs.
Ils
bossent bien, ils bossent beaucoup. Ils sont avec nous ce soir, tous les soirs désormais. Donc, l'after en vidéo sur Twitch, messieurs. Julien, es-tu d'accord avec Mikel Arteta? Arsenal joue le titre. Ah, c'est lui qui l'a dit.
C'est lui qui le dit. C'est la première fois.
Et oui,
ouais, parce que là, il ne le disait pas. Et après cette belle victoire à Chelsea, cette victoire vraiment impressionnante dans la façon dont ils ont joué, dont ils ont attaqué, dont ils ont défendu aussi, avec leur meilleure équipe possible, c'est l'équipe la plus forte qu'ils peuvent aligner, contrairement à Chelsea qui avait quand même encore une fois beaucoup d'absents, qui se cherche encore. On parlera tout à l'heure rapidement de Potter et de la déception pour l'instant, il faut le reconnaître quand même, malgré les deux victoires contre le Milan. Mais c'est vrai qu'Arsenal, forcément, Arteta, il pouvait pas, après ce match-là et cette performance-là, dire qu'il ne croyait pas non plus. Ils ont 34 points, ce qui n'était jamais arrivé en 13 matchs de championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Même la saison des Invincibles, ils avaient que 33 points à ce stade-là de la compétition. Donc c'est vrai qu'il l'a dit, il a aussi dit que ce serait une saison très longue, qu'il allait se passer beaucoup de choses, que voilà, que City était tellement fort aussi, ce qui est vrai. Mais plus cette saison avance, plus cette équipe progresse, plus elle gagne en maturité et plus elle se développe comme on s'y attendait, mais peut-être plus vite encore que ce à quoi on s'attendait. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté, encore une fois. C'est l'opportunité pour saluer l'énorme travail de leur entraîneur français des coups de pied arrêtés, Nicolas Jauvert, qui fait un travail fantastique et qui est un ami de l'after. Donc voilà, bravo Nico,
c'est
encore une fois.
D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un spécialiste au quotidien.
Ça, oui, bien sûr, mais après.
C'est incroyable que des grands clubs n'en aient pas encore aujourd'hui.
Mais moi, je comprends pas.
Je pense au PSG notamment, c'est fou.
Moi, je comprends pas. Si c'est aujourd'hui, on l'a répété assez souvent, à ce niveau-là, tu gagnes des matchs sur des petits détails.
Et
ben, les coups de pied arrêtés, si tu as 10 corners ou 10 coups francs excentrés dans un match, et ben, ça peut compter comme 3 ou 4 occasions, voire une ou 3 occasions franches. Et c'était le cas avec ce but d'Arsenal. Encore une fois, la façon dont Chelsea a encaissé ce but est honteuse au niveau défensif. Mais après, Arsenal aurait pu marquer d'autres buts, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Pour Chelsea, c'est limite pathétique, une performance pareille à domicile. Je ne sais pas trop ce que Graham Potter a voulu faire, ni dans sa composition d'équipe, ni dans ce qu'on a vu pendant le match. Aubameyang a joué en pointe, il a touché 8 ballons, il a fait 3 passes en une heure de jeu. C'est incroyable. Lui pourtant qui était au cœur de toutes les attentions, tous les regards, c'était le match contre Arteta qui l'a dégagé d'Arsenal, qui se déteste. Avant le match pour BT Sport, qui montrait le match à l'Angleterre, ils avaient fait une petite bande annonce, si tu veux. Il lui avait dit de dire mais non, il y a rien. Maintenant, je suis un bleu, il y a rien de personnel entre nous. Donc forcément, après la défaite et son match pathétique, il s'en est pris plein la gueule sur les réseaux sociaux, ce qu'il a bien cherché quand même. Donc voilà, c'était vraiment une journée à oublier pour Chelsea et une journée assez incroyable pour Arsenal.
Arsenal qui finira avant la trêve du mondial. Ouais, Polo, à Wolverhampton. Ouais. Vas-y, Polo, après Fred.
Ouais, pour Arsenal, c'est quoi pour toi le facteur qui fait qu'Arsenal marche comme ça? Parce que moi, je vois une équipe super jeune. Je vois, à mon avis, le plus âgé dedans, c'est le Xhaka, un truc comme ça. Tu as relativement peu de recrues, sauf Martinelli, sur le côté gauche. Tu as Gabriel Reus qui est en train de revenir au niveau qui était le sien. C'est quoi pour toi le facteur qui fait que cette équipe fonctionne? Parce que j'ai du mal, si tu veux, alors que Arteta travaille bien, c'est une bonne, c'est une chose.
Il y a des recrues, Fredo, Zinchenko et Gabriel Jesus aussi, qui sont arrivés.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, avant de répondre, Julien, excuse-moi, faut que je libère Nico Paul. Alors, si c'est la mi-temps à l'Euro de handball entre la Roumanie et la France.
Ouais, et les Bleus ont passé la vitesse supérieure. Un plus 6 pour l'équipe de France, 17-11. Elles ont broyé les Roumaines en défense, elles leur ont fait mal et elles sont très bien parties dans ce match. Plus 6 pour les Bleus.
À tout à l'heure, Nico. Julien, la réponse à Apollo.
Alors, je pense rapidement, Polo. Pour moi, Arteta, c'est du très très haut niveau en tant qu'entraîneur. Pour moi, c'est niveau élite. Il y a aucun doute là-dessus.
Et manager très, très également, haut. Julien aussi.
Enfin oui, mais je dis entraîneur à la française. Mais ouais, il est manager. Il restera pas toute sa carrière à Arsenal, mais je pense qu'il ira très très haut, très très vite.
Bah justement.
Et je pense aussi que l'arrivée de Gabriel Jesus et surtout de Zinchenko est un des facteurs. Parce qu'on l'a vu hier encore contre Chelsea, il le fait jouer comme à City finalement. Mais de toute façon, il y a tellement de points communs entre le City de Guardiola et le Arsenal d'Arteta, ce qui est normal puisque Arteta est le disciple de Guardiola. Ils ont travaillé 3 ans ensemble à City, mais de faire jouer Zinchenko à l'intérieur comme ça, finalement comme un deuxième milieu de terrain axial avec Xhaka devant Partey, qui permet notamment, enfin à côté de Partey pardon, qui te permet de battre le pressing adverse, surtout quand il est mauvais comme celui de Chelsea, qui t'offre tellement de solutions, c'est assez incroyable. Et je pense aussi que l'arrivée de Jesus et de Zinchenko, juste pour finir, en termes d'exigence de ce qu'ils avaient connu à City sous Guardiola, qui est l'un des coachs les plus exigeants au monde, a haussé le niveau de tout le monde à l'entraînement, en match, des exigences de chacun à Arsenal. Et Zinchenko, c'était marrant, disait hier après le match, moi de l'extérieur, quand j'étais pas à Arsenal, j'entendais toujours les gens dire ouais, mais Arsenal, c'est top 4, c'est bien. Je suis arrivé dans ce club, aujourd'hui il faut qu'on dépasse tout ça. Top 4, c'est plus suffisant. Aujourd'hui on doit chercher le titre, les trophées, et je pense qu'ils ont vraiment amené avec eux l'exigence du City de Guardiola.
Alors tu sais que tu parlais d'Arteta, Julien, les performances de l'Espagnol sont extrêmement suivis du côté de Barcelone, et son nom est régulièrement cité pour l'année prochaine si d'aventure Xavi ne restait pas.
C'est pas possible.
Il est présenté comme un
successeur légitime.
Mais très, 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 très légitime. Et l'école Guardiola au Barça, ça rappelle de bons souvenirs quand même.
De toute façon, juste pour finir, on a eu les disciples de Ferguson. On aura les disciples de Guardiola. On voit Compagnie, le travail que fait Compagnie à Burnley. Gaël Clichy sera bientôt l'entraîneur. Il sera très fort aussi. Voilà, beaucoup de joueurs qui ont eu Guardiola comme entraîneur, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, bientôt seront tous de très très bons entraîneurs. Enfin, pas tous, mais beaucoup de très bons entraîneurs.
Bon, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, le doc sur Arsenal, sur Amazon. Hein, je fais de la pub pour des concurrents, mais quand même, on voit tout le travail au quotidien de Mikel Arteta, qui est plus qu'un entraîneur, bien sûr, qu'un manager, un leader d'homme, un super DRH également.
Un entraîneur.
Exactement.
Plus qu'un entraîneur, c'est bon pour aller au Barça.
Arsenal, quand même, ça sent bon, en tout cas pour le top 4. Hein, ils veulent plus, mais déjà 11 points d'avance sur la 5e place de Manchester United. Fred, l'Atlético va pas très bien.
Non.
Nul contre l'Espagnol, avec une grosse partie pendant le match en supériorité numérique. Juste, excuse-moi, Fred, Saint-Etienne vient d'égaliser Patrick Müller.
Effectivement, 25e minute dans cette rencontre, et ce but égalisateur en effet signé, me semble-t-il, Wadji, avec Kiki Kouyaté, le défenseur messin, qui le laisse partir dans son dos. L'égalisation. Et petite précision, je vous ai dit tout à l'heure que le but contre son camp de Saint-Etienne était l'œuvre, si je puis dire, bien sûr, de Bakayoko. C'était en réalité Jean-Philippe Crasso. En tout cas, ça fait un partout entre Metz et Saint-Etienne après 25 minutes dans cette rencontre.
Le Real est mené, Fred.
Et le Real est mené. Ouais, il remet sur la pelouse de but de Comesaña à la 5e minute, à Vallecas contre le Rayo. Le Rayo, qui est une équipe, ils ont gagné à Séville la semaine dernière. C'est toujours très dur d'aller jouer à Vallecas, c'est un tout petit stade. Il y a peu d'espace. Le public est pas très nombreux, mais enfin, il est très puissant. Il est très sur les joueurs. Moi, j'adore aller à Vallecas parce qu'on est à 1 mètre des joueurs, quoi. Donc, ça, c'est super pour vivre les joueurs avec le match. Bon, l'Atlético. La dégringolade continue après cette élimination, non pas de la Ligue des Champions, non, mais aussi de la Ligue Europa, c'est-à-dire que terminer quatrième d'un groupe qui était quand même beaucoup, qui semblait vraiment accessible. La fin de Diego Pablo Simeone semble actée. Alors, pas en cours de saison, parce que après plus d'une décennie glorieuse avec l'Argentin, c'est pas possible qu'il soit viré en cours de saison. Mais tout le monde est en train de, en tout cas, de se faire à l'idée qu'il faudra qu'il parte en fin de saison. Le match, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une réaction après l'élimination, c'est-à-dire que voilà, c'est l'équipe de Pablo Simeone, tu vois, c'est de Diego Simeone, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a des coronaises, comme on dit. Bah là, il n'y a pas eu. Et chose très rare, ce qu'on appelle la tribune d'animation est restée dehors pour la première mi-temps. C'est très rare à l'Atlético, parce qu'en général, ils sont toujours à fond derrière leur équipe. Ça prouve bien qu'il y a un malaise. Si même les supporters les plus fidèles commencent à faire la grève des applaudissements et qu'ils n'entrent au stade qu'à la mi-temps, ça veut dire que quelque chose ne tourne plus rond et que finalement, les ressorts sur lesquels a toujours appuyé Diego Simeone, souvent, bah voilà, l'énergie, le courage, l'écusson, enfin tu vois, les coronesses aussi, hein, comme on dit, ça ne fonctionne plus. Et ce match pathétique contre l'Espagnol, avec en plus un João Félix qui marque le but de l'égalisation, qui était encore remplaçant, c'est-à-dire qu'on a un Simeone qui est pas capable de mettre son ego de côté. Et donc, et les noms commencent à circuler, bah oui, de plus en plus. Et même celui de Luis Enrique, qui va diriger l'Espagne au Mondial. C'est vrai que ça serait pas idiot. C'est un entraîneur comme Luis Enrique serait parfait pour l'après Simeone.
Pourquoi ?
Bah, il a un tel caractère qu'il peut supporter les critiques. Il est fort, quoi. C'est-à-dire, et il est capable de créer quelque chose de nouveau. En plus, on se souvient qu'il avait fait évoluer le jeu du Barça. Donc là, à l'Atlético, il faut une évolution. C'est évident, parce que ça peut plus jouer dans ce corset depuis, comme on le voit aujourd'hui. Et puis un autre nom, moi, qui me plaît bien, parce que là, il a une légitimité extraordinaire et il serait protégé pendant longtemps, c'est Fernando Torres.
El Niño,
qui est lui entraîneur des Rubinéas, des juniors. Et qui fait un travail magnifique et qui est mais intouchable à l'Atlético. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il était revenu faire une saison à la fin de sa carrière à l'Atlético, Simeone le vivait très mal, parce que les gens applaudissaient plus Torres que lui-même. Et lui, il veut être la star de l'équipe. Et Torres, il est la star absolue. C'est le type qui les a fait remonter en 2001. Et pour eux, c'est voilà, il est intouchable. Et lui, alors c'est un jeune entraîneur, mais on lui donnerait peut-être plus de temps qu'un autre entraîneur, parce que c'est l'enfant de la maison.
Un mot sur le match de Griezmann, peut-être.
Griezmann, il fait le boulot, quoi. Franchement, moi, je suis pas inquiet pour Griezmann à la Coupe du Monde, vraiment pas.
D'accord.
Vraiment pas. C'est le problème de l'Atlético, c'est pas Griezmann. Donc, et je pense pas que ça soit. Et c'est quelqu'un. Rappelez-vous, quand ça allait pas du tout pour lui au Barça, il disait toujours que l'équipe de France était sa bouffée d'oxygène. Et là, comme c'est compliqué, pas pour lui, mais pour l'Atlético en général, aller en équipe de France, ça va lui faire du bien. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter pour lui.
L'Atlético reste quand même troisième de Liga.
Oui, mais voilà. Ça prouve aussi que le niveau général de la Ligue a baissé. Parce qu'une équipe qui n'est même pas capable de se qualifier pour la Ligue Europa, elle est troisième du championnat.
Dans un instant, le Napoli, on en parle tous les lundis soirs. C'est des récurrences comme ça, comme Erling Haaland. Sauf que là, on va appuyer un peu sur l'attaquant du Napoli, quand même, Victor Osimhen, qui est en train de cartonner depuis son retour de blessure. 6 buts sur les 4 derniers matchs en Serie A. Et puis, on parlera également d'un duel de grands promus chez toi, Polo, ce week-end, entre l'historique Werder face à Schalke 04. C'est le programme, notamment de Génération After dans un instant. Puis il y aura la Sampdoria, Newcastle également, troisième de Première Ligue désormais. On en parle avec Julien Laurence. Reste avec nous, c'est Génération After spécial Drôle de Dame sur RMC. 21h15, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After à la radio sur RMC, aussi sur Twitch, hein, la chaîne Twitch d'RMC Sport. Il y a plein de questions également qui sont posées. On nous salue sur Twitch, merci de nous proposer à l'After en vidéo désormais. Voilà.
Ben, en plus, on a des physiques de télé aussi.
Merci beaucoup. Parle pour toi, mon cher Fredo. Beau gosse à la télé, toi aussi, quand même. Passe
pas
bien
mal. Ouais, c'est pas, hein, ça, pas mal.
Si, je t'ai vu à la télé parfois. T'as tes fans, hein?
Bah, chez Estelle, je serai demain après-demain.
Merci beaucoup, l'After Foot. Je vous écoute à la radio depuis 8 ans. Vous êtes les boss. Voilà, écrit boss, B-O-S-Z. Lyonnais, déçu. Voilà, les gars, les directs également. Rapidement, Patrick Müller, Metz, Saint-Etienne.
La 33e minute, toujours un partout entre les deux équipes, avec tout à l'heure une grosse situation pour les Stéphanois. Un contre et une frappe de Bouchouari qui est passée juste au-dessus des buts d'Oukidja. Un partout après 33 minutes.
Et toujours 1-0 pour le Rayo Vallecano face au Real après 18 minutes de jeu. Messieurs Naples, le Napoli continue de planer sur la Serie A. Victoire sereine. chez le deuxième. Non, ce Rennes, c'est un peu excessif. Hein, mené 1-0, qui gagne 2-1 finalement, ouais, grâce à une excellente deuxième période. Je veux qu'on parle également, mon cher Johan, de Victor Osimhen. On n'en a pas trop parlé pour l'instant le lundi soir. Certains ont douté.
En douté d'eux.
Bah, son intégration à l'époque, quand il était arrivé à Naples.
Ouais.
Et là, il fait un retour absolument incroyable. Je disais, 6 buts sur les 4 derniers matchs, buteur également en Ligue des Champions.
Ouais.
Bah, en fait, Naples tournait bien avant lui. Hein.
Naples tournait très bien avant lui. D'ailleurs, on ne parlait pas de lui hein, à l'époque quand il était blessé parce que Simeone en Ligue des Champions, Raspadori en championnat réussissait parfaitement l'intérim. En fait, avec Naples, c'est assez simple. On pourrait parler de n'importe quel joueur et en faire un focus parce qu'en fait, ils sortent tous du lot depuis le début de la saison. On a beaucoup parlé évidemment de Kvaratskhelia.
Ah bah, tu vois,
pardon. Ouais, même moi, je pensais à Kvaradona en fait en même temps et voilà. On aurait pu parler. On a parlé un peu de Lobotka aussi au milieu de terrain, très important. Zambo Anguissa, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il fait encore un match monstrueux sur la pelouse de l'Atalanta.
Kim, on en parle peu aussi.
Kim, on en parle peu. C'est un super défenseur. C'est peut-être pas le plus élégant, par contre, physiquement, pour le bouger. Il a une fréquence de pas et d'appui qui fait qu'il récupère beaucoup de situations. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de très rapide comme ça, mais sa fréquence de pas fait qu'il rattrape beaucoup de situations. Et dans la gestion de la profondeur, quand tu défends très haut, c'est très important. Mario Rui, qui a été transformé par Spalletti. Enfin, on pourrait parler de n'importe quel des 11, 14, 18 joueurs de ce Napoli. Et c'est vrai que Victor Osimhen, c'est un choix de luxe pour Spalletti aujourd'hui. Il a 3 attaquants centraux qui, à chaque fois qu'il joue, sont bons. Donc c'est pour lui c'est un vrai luxe et Osimhen t'apporte des choses très différentes de Simeone et Raspadori. Raspadori c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le cœur du jeu, qui va décrocher, servir d'appui remise, etc. Pas sur des ballons aériens mais plutôt au sol, qui va très bien se passer entre les lignes, etc. Simeone c'est plutôt le neuf presque à l'ancienne, qui est capable de faire presque tout, qui a un bon jeu aérien aussi, qui se déplace très bien sur les courses, etc. Et puis Osimhen c'est la prise de la profondeur et le jeu aérien, ce qu'on lui connaissait
la vitesse,
pas forcément en Ligue 1, mais depuis qu'il est à Naples, il a marqué énormément de buts de la tête, il a un super timing, il croise ou décroise très bien les têtes en fonction des situations. Et là, contre l'Atalanta, alors c'est lui qui provoque le penalty de manière tout à fait, je vais dire aléatoire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une main sur une déviation au premier poteau. Il a le bras un peu décollé, il l'enlève pas, et voilà. C'est les mains VAR. Mais après, c'est lui qui remet le Napoli dans le sens du chemin. Et puis, moi, ce que j'aime avec lui, ce qui est une force et un défaut, c'est l'exigence. C'est-à-dire qu'il veut tout bien faire. Il veut que tous les ballons qui lui arrivent soient parfaits. Il veut que le Napoli soit toujours très ambitieux, qu'il aille toujours de l'avant, etc. Donc c'est une force parce que tu peux t'appuyer sur ce leader un peu d'attaque qui veut toujours en faire plus et qui te propose beaucoup de solutions, etc. Par contre, ça peut devenir un vrai défaut et on l'a déjà vu, parfois c'est émotionnellement. Il a du mal à gérer la frustration, c'est quelqu'un qui râle énormément, qui peut sortir du match, qui peut prendre un carton rouge si un défenseur le sert d'un peu trop près, commence à le provoquer, etc. Donc il a aussi des axes d'amélioration, c'est normal, il est encore assez jeune et il n'est pas au très haut niveau depuis très longtemps. Mais très sincèrement, ce Napoli,
23 ans, hein.
Ce qui me plaît au Napoli, en fait, c'est que c'est une équipe qui, évidemment, j'en parle depuis le début de la saison, par son jeu, nous procure beaucoup de plaisir. Mais aussi, souviens-toi, Julien, finalement, ce qui est un peu presque bizarre, le match le plus difficile du Napoli en Ligue des Champions, c'est aux Rangers. Ouais. Où pendant longtemps.
Ils sont longtemps accrochés.
Ouais. Exactement. Et pendant longtemps, même les Rangers peuvent ouvrir le score. Il y a des situations quand même très dangereuses pour les Rangers, etc. Mais tu les as jamais sentis paniquer, en fait. Et contre Bergame, c'est pareil. T'es mené à zéro. Tu les sens jamais paniquer. Tu sens qu'ils savent qu'ils auront des occasions parce que leur jeu leur permet de se créer beaucoup d'occasions et qu'ils ont un côté létal en plus qui fait qu'ils se créent beaucoup d'occasions et ils en ratent pas tant que ça finalement. Donc, c'est aussi une force de se dire dans les moments un petit peu moins faciles ou dans les moments de grande pression de l'adversaire, surtout ne pas paniquer, essayer de gérer au mieux. Tu prends un but, derrière t'es tout à fait capable d'en mettre 1, 2, 3, 4, ça leur pose aucun problème. Donc aujourd'hui, quand on voit l'irrégularité dont je parlais tout à l'heure des gros, voilà, l'Inter qui gagne pas pendant 4 matchs, après qui gagne 4 matchs, puis là qui retombe, la Juve qui est aussi très très irrégulière, le Milan qui peut perdre des points à peu près contre tout le monde, malheureusement cette saison, il y a des limites d'effectifs dont j'ai parlé au tout début de l'émission.
Il y a une brèche énorme pour le Napoli.
Elle est monstrueuse, à un tel point que là aujourd'hui on se dit que si Naples n'est pas champion,
ça va être une terrible désillusion, pire que les 91 points de Sarri, pire que l'année dernière, parce que je l'avais répété il y a quelques temps, mais Naples a seulement 3 points de plus que l'année dernière. Là, ils font une saison exceptionnelle. On est en train de
dire. Le bilan, c'est 11 victoires de nul, 0 défaite, quand même.
Il y a que 3 points de plus que l'année dernière. C'est-à-dire que le début de saison l'année dernière était déjà très costaud. Mais ça n'avait pas abouti à un titre. Là, la différence, c'est que le gap commence à être très important.
Déjà 6 points d'avance sur le Milan.
Puis c'est un tiers du championnat qui est passé. C'est pas rien.
Exactement.
Tout à fait.
C'est pas un feu follet de début de saison.
Non, 35 points, est-ce que c'est pas le meilleur total des grands championnats européens, d'ailleurs, je me demande, tu vois. 35 points, 11 victoires de nul. Zéro défaite.
C'est 34 pour moi.
34 pour toi. Polo, le Bayern est à combien là? Devant l'Union?
J'ai pas regardé. Plus. Ils sont à 30 points, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Mais... Non, c'est phénoménal comme début de saison. Et puis bon, il y a les stats.
Par qui 34.
Enfin, ce que fait Spalletti à la.
Le PSG, pardon. J'ai dit, attention, le PSG, 38 points.
Ouais, on compte plus.
Je parlais des grands championnats, les gars, on est d'accord.
Oui, c'est pour ça.
Tu dis quoi?
Il y a 4 grands championnats,
plus la Ligue 1.
Bien sûr.
Il y a un match de plus sur le PSG. Ils ont joué un match de plus.
Oui, merci Julien Laurence.
Ah oui.
Prends ça, Jimmy Moran en régie. Un match de plus. Merci Julien d'avoir remis à sa place.
2,12 points de moyenne, je crois que c'est ça, Johan. 2,12 points de moyenne pour Spalletti depuis son arrivée, c'est assez monstrueux.
Ouais. Sur une saison et demie, quoi. Et puis les 15 points en Ligue des Champions.
C'est vrai.
Ça, c'est impressionnant.
Le Bayern a fait 18.
Ouais. Ah oui, tout à fait,
simplement. But de Metz encore, Patrick Müller.
Effectivement, les Messins qui reprennent la main avec ce but signé de Kevin Endoram, j'allais dire Jafet, mais c'est pas la même génération, c'est tout simplement son fils, avec cette reprise acrobatique de Diallo. Et qui est là pour reprendre ce second ballon? Eh bien, c'est donc Kevin Endoram. Les Messins qui mènent 2-1. C'est assez mérité au vu des 10-15 dernières minutes. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période.
C'est l'heure de la minute de Polo Breitner. Il m'a fait découvrir Kraftwerk la semaine dernière.
T'as écouté?
J'ai écouté évidemment, et j'ai la lecture aussi. Bien.
Tu as de la lecture. Tu as
je suis tombé en ignorance et j'étais mal à l'aise. Chez moi, quand j'ai commencé à lire l'histoire de Kraftwerk, j'ai fait mon Dieu, mais
c'est son génie.
Comment suis-je passé à côté à ce point?
Et t'as écouté un peu?
Moi, je parle des Chemical Brothers. Alors que
tu as vu ce que je t'ai envoyé cet après-midi quand même.
J'ai vu. De Kraftwerk to Chemical Brothers. Voilà. Histoire de la musique électronique. Voilà.
Trans-Europe Express, écoutez.
J'ai écouté.
Oui. Robots, we are the robots.
De quoi tu nous parles et qu'est-ce qu'on écoute, mon cher Polo? Musique.
Musique, on va écouter Peter Schilling, musique de 1982. Évidemment, lorsque la chanson s'appelle Major Tom, évidemment, c'est un hommage à David Bowie, à son album Space Oddity 1969. C'est le grand succès de Peter Schilling en 1982. Et là, évidemment, il est complètement détaché. Il part dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de Niko Kovac, qui a eu des débuts extrêmement complets. Ah oui, je voudrais juste dire que cette chanson a été remise à la mode par la série Dutch Song 83, qui est sortie il y a quelques années, qui pas mal. Dutch Song 86 est nul et Dutch Song 89 c'est encore pire, mais sinon la première est pas mal. Et donc on va parler de Niko Kovac, qui a eu des débuts de saison extrêmement compliqués à Wolfsburg. Il a dû faire le ménage dans l'effectif. Il faut savoir, en fait, il a été victime du syndrome Wolfsburg. C'est quoi le syndrome Wolfsburg? C'est que n'oublions pas que c'est un, alors je vais dire ça d'une façon extrêmement sympathique, c'est ce qu'on appelle une Finanzspritze en Allemagne. C'est une injection de capital, les injections de capitaux systématiques de ces clubs. Quand on parle d'une façon un peu moins sympathique, c'est tout simplement du dopage financier. Donc c'est ces clubs qui sont relativement petits, mais derrière il y a évidemment Volkswagen, et donc les joueurs qui viennent à Wolfsburg sont en général très très bien payés, parce qu'il faut avoir envie d'aller à Wolfsburg. Et évidemment tous les coachs, eh ben, ils ont cette difficulté de motiver l'équipe, parce que c'est évidemment pas le public qui va le faire. Et donc Niko Kovac, il a dû faire des choix très très drastiques dans cette équipe, notamment en bannissant tout simplement de l'équipe Max Kruse, l'ancien international allemand. Et là, il est reparti avec des jeunes. Et donc, il a eu un début de saison où il était justement barragiste, et c'est un peu compliqué. Et là, il est en train de s'en sortir avec 3 victoires et 3 nuls. Et ça n'a l'air de rien. Il est dans la position du sous-marin, que connaissent bien les joueurs d'échecs. C'est-à-dire, on perd la première partie, puis après, on revient au classement. Et en fait, peut-être que Wolfsburg va tenir son rôle d'aller chercher une place en Europa League ou en Europa Conference League. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Niko Kovac.
C'était la minute de Polo Breitner. On va faire une pause et on va se quitter avec la musique. On va monter un petit peu le son quand même, parce que c'est l'intérêt. Peter Schilling, voilà, pour ceux qui ont aimé le Major Tom de David Bowie, voici le Major Tom de Peter Schilling. C'était la minute de Polo. Il y aura la minute tout à l'heure de Johan et de Julien également. Impatient de découvrir votre proposition musicale, messieurs. Le handball, c'est reparti. Nico Palorsi, Roumanie-France, c'est l'Euro.
Elles sont impressionnantes. Elles sont impressionnantes, les joueuses de l'équipe de France, puisqu'elles mènent de 7 buts, 20 à 13. On a même fait du coaching. On s'est permis de faire des ajustements tactiques en changeant de défense pour travailler des choses contre la Roumanie qu'on est en train d'étrier. Il reste 24 minutes. 20 pour la France, 13 pour la Roumanie.
À tout à l'heure, messieurs. Dans un instant, on va parler notamment de Newcastle avec Julien Laurence. Il y aura également petit chapitre la Sampdoria, et club de ma jeunesse que j'ai adoré. Beaucoup de Français sont passés par là.
Du monde.
On s'en rappelle de ce maillot. Allez, on revient dans un instant dans Génération After, spécial drôle de dame. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, merci d'être avec nous. Vous écoutez RMC, 21h32. Les gars, à toujours avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet. C'est la mi-temps à Saint-Symphorien entre Metz et Saint-Étienne, Patrick Muller.
Effectivement, sur le score de 2 buts à 1 pour le FC Metz face à l'AS Saint-Étienne.
Et le Real qui galère, mon cher Fredo. Toujours mené 1-0 sur la pelouse du Rayo.
Oui, et c'est très compliqué parce que les joueurs du Rayo sont extrêmement énergiques. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit stade, une petite pelouse, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et le Real a du mal à combiner. La pelouse, elle n'est pas géniale non plus. Mais voilà, ce sont des battants. Et le Rayo, c'est une équipe qui, depuis son retour en première division, fait beaucoup de mal au gros. Donc c'est finalement assez logique que cette victoire momentanée du Rayo, le Real combine, mais a vraiment beaucoup de mal. Et puis je suis désolé, il manque Benzema. Quoi.
Et oui, il manque Benzema.
Ben, à un moment, voilà, ça, sans Benzema, le Real a perdu à Leipzig en Ligue des Champions, a fait match nul contre Gérone à domicile, est en train de perdre à Vallecas. Donc,
je pense que Deschamps n'est pas mécontent, tu vois là.
Ah non, bien sûr. Non, mais c'est dire l'importance qu'il a que ce joueur au Real.
Hein. Ah oui. Julien, est-ce que Newcastle grandit plus vite que prévu? Troisième de Première Ligue, ils en ont mis 4 sur la pelouse Southampton. D'ailleurs, le coach a été viré ces dernières heures. Est-ce que Newcastle est en avance sur sa croissance présumée?
C'est une bonne question, Nico. Je pense que oui. Je pense que même si Edia avait déjà fait un très bon travail, ça fait un an qu'il est. Je crois que demain, ça fera un an d'ailleurs qu'il a été nommé, ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il avait fait une très bonne seconde partie de saison la saison dernière, où déjà on avait vu ce qu'il mettait en place, on avait vu ce qu'ils essayaient de faire, on avait vu des joueurs qu'il avait fait progresser individuellement et puis aussi collectivement, cette équipe-là qui avait progressé. Mais on pensait sûrement pas qu'il serait juste là avant la pause pour la Coupe du Monde à la troisième place, qu'il n'aurait perdu qu'un match. Un match qu'il perd d'ailleurs à la 98e minute à Liverpool, dans un match où ils n'auraient jamais dû perdre en plus. Mais sinon, ils ont tenu tête à Manchester City, par exemple. Ils font 3-3 contre City à domicile dans un match qu'ils auraient aussi pu gagner. Même s'ils ont, après, que joué Manchester United et Tottenham, où ils sont allés gagner d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore joué, par exemple, Arsenal ou Chelsea. Mais c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'on voit. Ils marquent beaucoup de buts. Ils sont très bons offensivement, même après qu'Alexander Isak se soit blessé, même avec la blessure de Saint-Maximin. Il y a un très bon Miguel Almiron qui est revenu au niveau qui était le sien.
On en a peu parlé, Almiron, paraguayen, qui s'est fait chambrer il y a quelques temps. Pas n'importe qui,
par
n'importe
qui en plus. Ouais. Voilà, Jack Grealish qui s'était moqué de lui en disant que quand Riyad Mahrez n'était pas bon en fait avec City, il jouait comme Miguel Almiron. Ce qui à ce moment-là n'était pas forcément faux parce qu'Almiron n'était pas très bon non plus, faut le reconnaître. Et je sais pas s'il y a une cause à effet, voilà, une relation entre ce qu'a dit Grealish et la forme actuelle d'Almiron, mais en tout cas c'est vrai que je pense qu'il a Edia finalement lui convient très bien, le jeu développé par Newcastle lui convient très bien, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir la bouillie avec Steve Bruce avant. Et c'est vrai que de voir Almiron à ce niveau-là, de voir Bruno Guimaraes qui est exceptionnel dans cette équipe.
Ah, carrément exceptionnel, tu dirais.
Ah ouais, vraiment, vraiment.
Qui a été appelé aujourd'hui dans la liste, bien sûr, avec le Brésil.
Tout à fait logiquement, même s'il ne sera pas titulaire, mais c'est pas grave. Qui a été blessé aussi, donc ils ont fait sans lui. Ils ont été bons sans lui, mais c'est vrai qu'il est très bon. Et Sven Botman, un autre ancien de la Ligue 1, qui est très très bon lui aussi, qui s'est vraiment installé dans cette défense, dont il est l'un des leaders. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'on voit. Je ne sais pas s'ils vont aller recruter au mois de janvier ou pas, mais en tout cas pour l'instant, c'est du très très beau, très très bon football.
Penalty pour le Real, mon cher Fredo, à l'instant.
Ben oui, il a eu du mal. Hein. Et heureusement qu'il y a le VAR dans ce cas-là pour une faute sur Asensio dans la surface qui paraissait assez logique. Alors qui va tirer? Parce que le tireur de penalty a titré, Karim Benzema n'est pas là. Peut-être Luka Modric, Valverde, pas Asensio, gaucher. On va voir qui va tirer ce pénalty.
On verra ça dans un instant.
Bah oui, bien sûr, oui.
Parlons du duel de ces promus, grand promu, choc historique, mon cher Polo, entre le Werder Brême et Schalke 04, remporté logiquement, tu dirais, par le Werder, même si Schalke n'a pas démérité.
Ouais, ils n'ont pas démérité, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment ces deux historiques du foot allemand qui ont aussi gagné des championnats et des Coupes d'Europe, hein, une Coupe d'Europe de chaque côté. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est la différence de stratégie mise en place. On va dire que le Werder travaille bien et Schalke reste dans l'émotionnel à longueur de temps. Et l'année dernière, c'était marrant parce que le Schalke remporte le championnat et tout le monde trouve ça merveilleux, la presse s'emballe, etc. Mais en fait, tu te rends compte que l'équipe était relativement moyenne et ils ont gagné le championnat à l'énergie en changeant de coach. Et le Werder, lui, avait réussi à garder une grosse partie de son effectif qui était descendu de l'année précédente. Et donc, en revenant cette année, si tu veux, bah, t'as Schalke qui aussi, pour des raisons financières, devait à nouveau refaire changer 80% de son effectif, alors que le Werder, il est juste allé chercher des fins de contrat qui avaient le niveau Bundesliga et il y en a un qui est 7e et l'autre 18e. Mais ce qui est impressionnant, si tu veux, alors déjà, ils font les bons choix au Werder. Ils ont un coach qui s'appelle Ole Werner, qu'on ne connaît pas évidemment en Europe, mais juste il est plus jeune que Nagelsmann. Il est connu maintenant en Allemagne parce qu'il avait fait un boulot extraordinaire dans le nord de l'Allemagne, plus au nord que le Werder à Kiel, où il avait réussi à être barragiste. Il avait quitté de lui-même ce club parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas aller plus haut. Il est récupéré au Werder, il monte et là il est 7e. Et on parle beaucoup de lui comme futur grand du entraîneur d'Allemagne. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. On a déjà changé d'entraîneur. Alors on avait récupéré Frank Kramer, qui est un spécialiste des descentes. Et là, on est allé chercher le petit copain qui est à Thomas Reis, qui était à Bochum. Mais surtout, la spécificité de Bochum, de Schalke, c'est que c'est une véritable armée mexicaine sur le banc. Tu as en assistant l'ancien coach de l'année dernière. T'as les anciennes gloires comme Azamoa qui sont assis sur le banc. T'as le directeur sportif qui depuis a démissionné, etc. Une fois que le premier coach a été viré. Et donc, tu as un club entre guillemets toujours aussi bordélique, et ils sont derniers de Bundesliga, et Schalke, honnêtement, ça va être très dur pour se sauver cette saison. Je l'avais annoncé dans le podcast de fin d'exercice dernier, qu'est-ce qu'on avait fait avec le club de Gelsenkirchen. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir ces deux clubs, qu'il y en a un, tu vois, qui bosse bien, qui a compris et qui apprend de ses erreurs, et l'autre qui continue d'être dans l'émotion d'une façon extraordinaire.
Autre grand monument, en tout cas, moi qui m'a bercé dans les années 90, c'est la Samp. La Sampdoria, qui est en grand danger en Serie A. Bon, ce serait pas une première relégation ces dernières années pour la Samp. Avant dernière de Serie A, battue par la Fiorentina, chez elle, encore une fois.
Ouais, ça fait un moment que la Samp tourne autour, tout comme le Genoa a tourné autour de la relégation pendant un moment avant d'être relégué la saison dernière. Je serais absolument pas surpris que, après le Genoa la saison dernière, ça soit la Samp cette année. Il se passe plus rien dans ce club. Club qui est en vente, vente qui a du mal à se faire. Alors on nous dit qu'il y a des due diligence qui sont en cours pour voir un peu ce qui se passe au niveau des comptes, l'étude des comptes, etc. Mais ça n'avance pas. Ça fait des mois et des mois que le club est en vente. Par conséquent, il y a eu très peu d'investissements cet été parce qu'il faut pas alourdir la mule entre guillemets, et que le repreneur, il faut pas qu'il se retrouve avec des dépenses à honorer qui n'étaient pas prévues dès le départ. Ils ont perdu des joueurs talentueux. Ils ont perdu Damsgaard, qui était sans doute le plus gros talent. Alors son dernier, il a très peu joué parce qu'il a été blessé, mais c'est vraiment le gros talent de cet effectif là et qui est parti chez le pilleur de Serie A, Julien Laurence. ils ont perdu des tauliers comme Ekdal, comme Torsby, qui est chez Polo, exactement. Ils ont perdu des joueurs importants, ils ont perdu de l'expérience, ils ont perdu du talent. Il se passe plus rien. Ils ont tenté de faire un revival avec Gianpaolo, l'entraîneur qui avait si bien réussi il y a quelques années, mais le problème c'est que ça n'a pas du tout marché. Là, ils ont fait un premier changement d'entraîneur en faisant venir Dejan Stankovic, qui est à l'Étoile Rouge de Belgrade avant de quitter en début de saison. C'est un petit peu mieux. Tu sens qu'il apporte quand même un peu ce côté Grinta qui a toujours été une de ses marques de fabrique, mais ça suffit pas en fait.
Enfin, 6 points 13 journées.
Non, c'est très compliqué. Et,
une seule victoire.
Et on pourrait avoir un derby de Gênes en série B la saison prochaine, puisque le Genoa se bat pour monter, mais ça sera une lutte effrénée pour monter en série A la saison prochaine.
Petit point Real, mon cher Fredo, en 3 minutes.
Très vite, un pénalty réussi par Lucas Modric, et là c'est Militao qui vient de donner l'avantage au Real de la tête sur un corner. 2-1 pour le Real, alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première période.
Les gars, 30 secondes de nostalgie. Quand je vous dis Sampdoria, vous pensez à quoi spontanément?
Viali.
Ça me gêne.
Viali. Fred,
ça me gêne d'en parler.
Mancini pour bien sûr. Moi ce qui est bizarre c'est
Lombardo.
Lombardo aussi, Lombardo, bien sûr. Moi, je pense aux Français, je pense à Bogossian, à Carambeau aussi, tu vois.
Non, c'est après, ça. C'est...
Mais c'est après, c'est ma jeunesse. Après, est-ce que moi, d'avoir 15 ans de moins que toi, Polo?
Mais non, je me rappelle.
Mais c'est incroyable.
Non, pour Polo, le monde, c'est arrêté en 89.
En 1979.
Incroyable.
Le jour où Reder s'est appelé Twix, le monde s'est
arrêté. Ah oui, j'ai connu Reder. J'ai mangé des Nuts aussi, il n'y a plus de Nuts. Si, Nuts, ça existe encore, bref.
Non, mais attends, moi je me rappelle d'un match de Coupe d'Europe où Viali provoque la faute, mais c'était une arnaque complète et c'est lui qui tire le coup franc, si je me rappelle, c'était contre un club français. Je me demande même si c'est pas contre Nantes ou contre Monaco, je me rappelle plus. C'était une arnaque complète et à l'époque, les clubs italiens étaient monstrueux.
Moi je me rappelle de Pierre Allègre aussi. Il s'était imposé à la Samp. Pierre Allègre avec sa brosse.
Le Lantois.
Sa brosse Lantois.
Pierre Allègre. Oh, ouais, c'est sûr.
Pierre Allègre. Voilà. Bon, c'est parti pour la minute de Julien. Je suis impatient. Je suis sûr, c'est un choix très original musical. Je suis convaincu. Allez, vas-y, débrouille-toi. Oh, ben dis donc, on a fait que ça.
Non, mais parce que j'allais parler de Manchester. Mais non, mais j'allais parler de Manchester City. Okay. Donc forcément, ouais, je me suis dit pour commencer là. Okay. Voilà, Oasis, les frères Gallagher, bien sûr, Wonderwall et on chante à l'Etihad. Ils ont été leaders après leur victoire contre Fulham où ils jouent à 10 contre 11 pendant une heure après le carton rouge de Cancelo. Ils ont 70% du ballon, c'est incroyable cette équipe. Gary Lineker d'ailleurs a dit samedi soir peut-être qu'ils devraient jouer tous leurs matchs à 10. Comme ça, le championnat sera un peu plus compétitif. Il a peut-être raison. Mais sinon, je voulais parler surtout de Unai Emery pour sa grande première avec Aston Villa. 3-1, la victoire contre Manchester United qui avait pourtant été invaincu pendant 9 matchs, toutes compétitions confondues. Deux buts très tôt, donc un coup franc de Lucas Digne. Un changement tactique avec un 4-2-2-2 assez étroit qui a très bien fonctionné contre une équipe de United qui était fatiguée, qui a mal commencé les deux périodes. Et Ten Hag qui n'était pas content du tout après le match. Et Cristiano Ronaldo qui a cadré qu'une seule frappe et qui a aujourd'hui en championnat plus de fautes que de tirs cadrés. Donc voilà.
C'était la minute de Julien Laurence. Voilà.
Tous mes amis fans de Cristiano qui vont maintenant m'insulter sur les réseaux, je trouvais que c'était une bonne stat.
Ça n'est jamais arrivé, ça, j'imagine, non? Tu t'es jamais fait insulter sur les réseaux?
Tirs cadrés et 7 fautes. Donc c'est bien.
Merci pour la minute de Julien. Il nous reste quoi? Quelle minute? Celle de Johan, bien sûr. Impatient, choix musical. J'espère que je vais apprendre quelque chose.
Légalisation du Rayo.
Ah ben voilà, quel match, c'est fou. De partout entre le Rayo et le Real. Où en est-on entre Metz et Saint-Etienne? C'est la mi-temps. Toujours demain pour le FC Metz, bien sûr. Et le handball, très rapidement, Nico Polanski, Romani France, l'Euro.
On mène de 9 buts à 10 minutes de la fin. On est en train de faire rentrer les jeunes. C'est une victoire vraiment très convaincante de l'équipe de France avec une super capitaine. Estelle Nzeminko, elle est à 100%. Et une très bonne Pauletta Foppa à l'intérieur. 5 buts pour la jeune pivot. Plus 10 pour les Bleus. Désormais 29-19.
C'est très drôle les commentaires sur Twitch, hein, la chaîne RMC Sport. Je dis pas tout parce qu'il y en a des dizaines, des centaines. Bon, à l'instant, quelqu'un vient de dire, le boss, ça y est, vient d'arriver autour de la table. Je parlais pas de toi, Fred, Daniel.
Le parrain.
Le boss est arrivé. Et le contre-pied nous dit on veut que RMC fasse des pins parlants, Daniel Riolo. C'est comme l'époque Thierry Roland, Jean-Michel Larquet.
Bon Noël. Mais non.
Choisissez la bonne phrase et on va vraiment fabriquer des pins parlants, Daniel Riolo.
Alors, franchement, la seule phrase adéquate pour un pins parlant me concernant, c'est ça fait 10 ans que je le dis.
Pas mal.
Ah oui, bah oui, c'est clair.
Ça fait 10 ans que je l'ai dit. Ça fait 10 ans que je l'ai dit.
Le mec s'imite, c'est génial. J'adore.
T'appuies dessus comme ça.
Pit, ça peut faire un tabac.
Ça peut être un peu crispant au quotidien, tu es tout le temps.
Oui, ouais. Ça peut. Au bout d'un moment, je pense.
Allez, Daniel Riolo au quotidien, c'est crispant.
Dans un instant, Daniel sera notre sélectionneur de l'équipe de France. C'est lui proposer des joueurs de vos championnats qui sont en ballotage défavorable pour la liste de mercredi soir. Il vous dira s'il les prend ou pas. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. À tout de suite sur RMC, 21h45.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, merci de nous écouter. 21h49 à 22h, Gilbert Bribois sera là, Flo Gautreau et Daniel Riolo qui est déjà là, comme tous les lundis soirs.
Oui, je suis déjà là. Bonsoir les amis.
Il a mis une veste, c'est notre sélectionneur ce soir.
Voilà.
Mais d'abord, messieurs, on va écouter tranquillement la minute de Johan Crochet. Choix musical, envoyons la musique. Je ne reconnais pas cette note.
Alors, c'est un rappeur qui s'appelle Piotta. C'est un feat, parce que là, c'est pas Piotta qui rappe. C'est un feat avec Il Muro del Canto, qui est un...
Un feat, ça veut dire un remix
Non, c'est un invité sur...
Association,
c'est un duo. Association, exactement. Donc, c'est Sette Vizi Capitale. Ça parle, évidemment, de la ville de Rome, de ses vices. de la difficulté que peut apporter cette ville au quotidien. Elle apporte beaucoup de choses merveilleuses, mais aussi beaucoup de côtés noirs et sombres. D'ailleurs, c'est une des musiques utilisées dans la série Suburra sur Netflix. Et j'ai utilisé cette musique, évidemment, pour parler de Rome, derby de Rome ce week-end. Alors, pourquoi je le fais en simplement une minute? Parce que ce match ne mérite pas mieux. C'était un match abominable. Sans doute l'un des pires matchs de Serie A que j'ai vu cette saison. Entre l'approche très attentiste de la Lazio de Sarri, mais qui a eu raison dans la stratégie, c'est-à-dire on attend l'erreur de l'adversaire. L'erreur est venue très rapidement avec Ibanez, qui pour un deuxième derby en 18 mois fait une énorme erreur qui coûte l'ouverture du score. Et la Roma qui est incapable de faire autre chose que de balancer des longs parpaings sur Abraham dans la construction du jeu. Ça a été un match absolument ignoble, donc ça ne mérite pas plus d'une minute, d'autant plus que il y a eu deux très belles chorégraphies en avant-match dans les deux courbes, les deux virages de la Roma et de la Lazio, très colorés, magnifiques tifos, etc. Par contre, c'est aussi le derby de la honte, puisque d'un côté, on a eu un chant raciste envers Radu, le joueur de la Lazio, et de l'autre côté, on a eu à six reprises un chant antisémite des supporters de la Curva Nord de la Lazio, puisque les supporters de la Curva Nord de la Lazio, pour eux, les Romains sont des Juifs. Je vous renvoie à plein de banderoles qui ont déjà existé, etc.
Les supporters de la Lazio, franchement, j'ai du mal à te croire.
Et donc,
j'ai fait tourner ma chaise.
La Roma a pris 5000 euros d'amende pour les chants.
Ah, c'est énorme.
Oui, mais la Lazio n'a rien pris.
Mais c'est rien, 5000 euros non plus, c'est rien.
Donc c'est une catastrophe totale. Donc c'était nul sur le terrain et en plus c'est la honte.
Messieurs, mercredi soir, le sélectionneur va parler, va annoncer ses joueurs 23, 24, 25, 26. Certains sont en ballotage favorable ou défavorable. Je parle pas des joueurs qui sont certains d'être dans la liste. Les gars, je vais commencer avec Julien Laurence. Quel est le joueur de ton championnat qui est en ballotage plus ou moins défavorable ou favorable, c'est selon, qui mérite selon toi d'être absolument dans la liste des champs?
Alors j'ai choisi Brahima Konaté, qu'on a vu hier contre Tottenham avec Liverpool à côté de Van Dijk, qui a été très bon, même s'il a commencé un petit peu doucement. Il a été très bon. Alors il a été un petit peu blessé.
Là, on est d'accord qu'il essaye de me vendre un joueur pour ma liste.
Il vend un joueur, c'est pour ta liste.
Pour mon groupe de 23, t'es en train de me vendre Konaté pour mes 23.
Exactement. Donc il est frais, contrairement à d'autres, parce qu'il a moins joué que les autres. Il est revenu à son meilleur niveau. Il était vraiment impressionnant hier dans les duels, dans ses remontées balles au pied notamment. C'est un joueur qui, même si tu joues pas dans l'effectif, il sera très bien. Il a beaucoup d'amis dans ce groupe. La dernière fois qu'il a été appelé par Deschamps, il s'était très bien intégré. D'ailleurs, le sélectionneur avait salué le fait qu'il avait été, il avait connu une bonne intégration. Et d'ailleurs, rappelle-toi ce que une mauvaise intégration avait pu faire à Aymeric Laporte, par exemple. Donc, c'est très important pour le sélectionneur aussi de savoir bien s'intégrer.
Il est malin, Julien Laurence. Il utilise l'argumentaire de Daniel cette semaine pour Terrier, où il n'y avait pas d'amis pour Terrier. Donc,
laisse-le finir.
Il est malin, Julien Laurence.
Il te reste 15 secondes, Julien. 15 secondes.
C'est la jeunesse, c'est la puissance physique. Il peut jouer dans une défense à 3, dans une défense à 4. Il a un très bon état d'esprit.
Tu me le vends lui plus que Fofana ou que l'assassin de chat là?
Alors, Kurt Zuma.
Ouais, alors.
Il a pas assassiné son chat. Il a frappé.
Fofana, c'est l'agresseur de chat. Lui et Saliba, t'es parfait.
Alors attends, tu me vends Konaté, tu me vends Fofana, Zuma, Saliba, tu me vends.
Tu vends qui, Konaté?
Non, non. Konaté, Zuma, c'est pas possible. Fofana, il est blessé. Saliba, il est déjà dans ta liste parce qu'il est déjà très fort. Donc, c'est Konaté.
Alors, est-ce que
Saliba, dans ma liste, Saliba,
Daniel,
dans ma liste, c'est pas sûr à 100%.
J'ai trouvé assez bon, Julien, dans son argumentaire. Daniel, est-ce que tu prends?
Non, pour l'instant, dans mon cahier, je le mets dans la marche.
D'accord. Juste dans la marge des 24, 25, 26, peut-être.
Ouais, je le mets dans ma marge. Bon. Genre, tiens, au cas où, jette un coup d'œil à ta marge.
Ok, pour l'instant.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un va réussir à convaincre Daniel? C'est la question. Fred, vas-tu convaincre Daniel? Quel joueur tu proposes?
Je propose Eduardo Camavinga. Pour une raison très simple, c'est que c'est quand même un peu l'hécatombe au milieu de terrain de l'équipe de France.
Et donc tu t'es dit, je vais te proposer un mec qui s'impose pas au Real, qui joue.
Laisse-le finir. Donc peut-être te convaincre dans 30 secondes.
Pas Paul Pogba, etc. Il y a quand même beaucoup de doutes sur le milieu de terrain de l'équipe de France. Alors moi, je te propose pas un titulaire. Je te propose même pas un joueur qui risque de jouer beaucoup, mais au cas où, avec toutes les blessures qu'il y a, etc. Et puis dans un match qui est bien bloqué, ben faire rentrer Eduardo Camavinga à 20 minutes de la fin, on l'a vu, ça marche au Real. On s'en souviendra du côté du Paris Saint-Germain, le fameux match retour de Ligue des Champions de l'an dernier, huitième de finale.
Te casse pas,
ben voilà, non, je te rafraîchis la mémoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui va apporter de la fraîcheur, qui va apporter un très bon état d'esprit, qui sera parfait dans le groupe. Et si jamais t'en as besoin, ben s'il veut développer un match, t'as besoin d'un mec qui soit très bon box to box, un mec pour faire péter un petit peu le milieu de terrain. Ben Eduardo Camavinga pourra être très utile, mon cher Daniel.
Je mets lui dans la marge devant Konaté. Déjà, forcément, mon goût pour
oui, mais pas,
le plus haut sur le terrain. Non, attends, il faut que j'en choisisse un sur les quatre. Ou un par quatre.
Non, c'est 0 sur 4. C'est très ouvert. Hein.
Pour l'instant, j'attends mieux. Je ferai un bilan à la fin. J'en
ferai un bilan.
Il a bien aimé les pas avoir comme prof Daniel Riolo.
On a compris sur Camavinga.
Mais Camavinga a déjà de l'avance sur Konaté.
Ah!
Oui, bien
pas
sûr.
Pas mal, Fredo.
Oui, parce que des défenseurs, il y en a d'autres. Ben, peut-être. Mais... même Polo pourrait m'en vendre plusieurs chez lui. Et je suis même pas.
Polo, justement.
Je pense pas qu'il c'est ça qu'il va me proposer.
Qu'est-ce que tu veux en marchandise? Qu'est-ce que tu veux vendre?
Je vais proposer quelqu'un qui va te faire gagner la Coupe du Monde.
Ah, c'est carrément.
Quelqu'un que j'ai fondamentalement critiqué.
Tu vas gagner la Coupe du Monde.
Son arrivée à Mönchengladbach. Ah. J'ai beaucoup hésité entre la hype du moment, Kolo Muani et Marcus Thuram. Pourquoi Marcus Thuram? Déjà parce qu'il revient en ce moment, il est polyvalent évidemment, il joue en pointe en ce moment, donc on a le droit de mettre le papy Giroud à la retraite. Et
j'étais en train de jouer sur les côtés. Tu viens de dire un truc horrible.
Non mais attends, tu vas voir ça. Non, c'est qu'il est tellement inconstant, parce que tu penses qu'il est arrivé, il est tellement inconstant qu'évidemment il ne sera pas titulaire, mais tu le fais rentrer dans les 20 dernières minutes, à lui tout seul, il te change un match. Et ça, pour moi, c'est très important. Est-ce qu'il pourrait faire que la France devienne championne du monde? Donc, et je le dis d'autant plus que c'est un joueur qui m'a tellement énervé parce que on ne peut pas compter sur lui systématiquement. Mais là, il est en super période et dans la liste de l'équipe de France, eh ben, il te fera, lorsque tu seras dans les arrêts de jeu, etc., tu le feras rentrer et il va te mettre un coup de boule. Il va te remporter le
titre. Non, parce que pour le coup de boule, j'ai Giroud déjà.
Mais non.
Déjà, moi, je pensais que t'allais plutôt me vendre Kolo Muani.
J'ai hésité entre les deux. Mais non, mais tu sais pourquoi j'ai choisi, parce qu'il a fait l'Euro 2021 avec Dédé. Et donc, il a l'habitude des grandes compétitions. C'est toute la différence avec Kolo Muani. Kolo Muani, on aura le temps pour l'Euro 2024.
Bon, donc, tu considères que Moussa Diaby, c'est terminé?
Je pense qu'il peut faire le sprint pour JO, mais c'est un peu plus compliqué pour.
Il est bien doublé ce week-end.
Ouais.
Johan maintenant. Alors je crois que Johan n'est même pas convaincu par le joueur qui veut te vendre.
Mais non, mais c'est. Il y a un peu de ça. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai. Au départ, moi, je pensais à Giroud.
Bon, non, mais Giroud, il serait
Stéphane Guy a parlé. Voilà. Moi, j'ai très peu de Français en Serie A. Très peu de Français en capacité.
Dombélé, on parle beaucoup de Dombélé.
Oui, mais si je parle de Dombélé, il a déjà levé les yeux au ciel avant même que je lui en parle. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi Tanguy Ndombélé. J'ai choisi Pierre Kaloulou. Ça va pas lui plaire parce que c'est encore un défenseur.
Ouais mais c'est pas mal.
Mais moi, ce que j'aime,
on est sur un polyvalent.
Voilà, il y a la polyvalence défenseur central, latéral droit. Il y a le fait qu'il commence à accumuler quand même pas mal d'expérience entre la Serie A.
Excuse-moi, désolé, rapidement, c'est fini handball. Il faut le faire. Libérer Nico Paul. Alors, c'est terminé entre la France et la Roumanie, Nico.
Avec les Françaises qui ont pulvérisé la Roumanie, plus 14, victoire 35-21. Deux infos rapides. Les Françaises sont qualifiées pour le tour principal et elles joueront la première place de la poule contre les Pays-Bas. Ça sera mercredi à 20h30.
À plus tard, Nico. Bonne soirée.
Salut,
à toi.
Bonne soirée.
Johan, tu as 15 secondes pour achever de convaincre Daniel.
Donc, j'en étais sur sa polyvalence, l'expérience, parce que mine de rien, il est quand même sur deux campagnes de Ligue des Champions et ça commence à compter. Et puis, il joue comme dans un club à pression, l'AC Milan, où il joue le titre chaque saison. Et puis, il y a le côté fraîcheur. Il y a le côté aussi, attention, joueur qui peut te permettre de jouer très haut parce qu'il est très rapide. Donc, très bonne gestion de la profondeur.
Ça veut dire quoi, très haut?
Sur la ligne médiane. Ouais. Je sais, ça peut arriver sur certains morceaux de match. Je sais que tu vas me dire que Deschamps ne joue pas comme ça.
Ouais.
Ça peut arriver sur certaines configurations où tu dois marquer des buts et où tu dois gérer en même temps des déséquilibres derrière et sur la gestion de la profondeur. Ouais.
Ça grimace là en face de toi. Ça grimace.
Ouais. J'aime bien. Je trouve que c'est un joueur intelligent qui est en pleine progression.
Ouais, t'as choisi un en fait. On va faire ça. Un seul.
Ouais, et puis tu sais où
qui t'a convaincu.
Kolo Muani.
Mais personne ne l'a proposé.
On a proposé des joueurs pour le premier tour. Moi, je propose de gagner la Coupe du Monde.
Honnêtement,
on t'en prend aucun.
Si Thuram, j'ai pensé, mais en fait, c'est Giroud qui a ces caractéristiques-là pour être leur.
Non, il ne sait pas jouer sur le côté.
Thuram non plus, il ne va pas jouer sur le côté. Des joueurs
bien sûr que si, il joue sur le côté.
Il y a Coman, il y a Dembélé, il y a machin.
Mais quand tu changes, tu changes.
Non, non.
Les gars, vous vous appellerez, c'est terminé.
Donc celui qui, dans les 26, doit être pris, c'est Kamavinga.
Bravo, merci. Fred.
Voilà, merci.
C'est là-dessus que nous nous quittons, Fred. Bonne soirée, Fred. Bonne soirée, Johan. Merci, Julien. Merci, Polo. L'after continue avec Flo, Daniel et Gilbert. Bonne soirée à tous.